Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour tout le monde, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première s'appelle Linda Curley. Elle est devenue non-voyante subitement il y a 3 ans. Elle est aussi une des 3 fondatrices du groupe Facebook Mousquetaires avec Canne Blanche. On en avait déjà parlé plus tôt dans l'émission, donc on va avoir un autre son de cloche, si je peux dire ça comme ça. Et ma deuxième invitée s'appelle Raphaël Tousignan. C'est une jeune athlète de 18 ans en para-hockey. Elle est aussi un modèle, un mentor pour beaucoup de jeunes. Vous allez être très contents d'en apprendre beaucoup plus au sujet de mes deux invités aujourd'hui. Alors, ben, on y va sans plus tarder. À tout de suite, et c'est tout de suite. Vous écoutez Les Passions de Camille. Et sur ce beau thème musical qui est un petit clin d'œil justement pour ma première invitée, hein, vous voyez pour ceux qui sont habitués d'écouter l'émission que c'est un petit peu différent. Linda Curley, bonjour.
Bonjour Camille, ça va?
Ça va bien et toi?
Oui, merci.
Donc Linda, on t'a fait un petit cadeau, une petite surprise avec ce thème musical parce qu'on sait que tu es une maniaque de hockey.
Un petit peu beaucoup.
Bon, ben voilà, ça c'est dit, on pourra même... Ben, on reparlait tout à l'heure, bien sûr, mais pour ceux qui nous écoutent, je tiens quand même à ce qu'ils sachent, en fait, qu'on apprenne à te connaître avant tout. Donc, tu as 58 ans,
oui.
Tu habites à Montréal et tu es en couple depuis 2 ans.
Exact.
Avec un homme qui, à la base, était un ami depuis 25 ans.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est... Oui, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, on s'est connus par le travail, puis on est devenus très proches. On s'est entendus bien depuis le début. Et puis, de fil en aiguille, on est toujours restés amis. On a toujours eu un conjoint, des fois oui, des fois non, pas au même moment.
Mm-hmm.
Mais l'année dernière, il est venu me revisiter, pas l'année dernière, je m'excuse, il y a 2 ans. Il est venu me visiter en tant qu'ami, puis on jasait, puis il m'a dit garde, je vais te sortir un petit peu, ça va te faire du bien. Puis de fil en aiguille, on est tombé amoureux, puis ça va super bien. C'est un ange qui est arrivé dans ma vie, là. C'est incroyable, Benoît. Ma soeur me disait que justement, ma mère est décédée, puis elle me disait, c'est maman qui t'a envoyé un ange sur ta route, là.
C'est
Donc, c'est ça l'histoire de nous deux. On a toujours été amis. Et maintenant, on est amoureux.
Ben oui, mais c'est une magnifique histoire d'amour qui a perduré à travers les années. Mais j'ai envie de te demander, comment il a fait pour être patient depuis aussi longtemps? Est-ce que tu peux, toi, répondre à cette question?
Non, je lui demande tout le temps.
C'est vrai?
Puis il se plaît à me dire, souvent, il est taquin un peu, puis il me dit, tu m'as fait attendre pendant 20 ans, tu vas payer pour, puis là, on rit de ça tout le temps, mais écoute, je sais pas comment il a fait, je lui demande, puis j'ai pas de réponse.
Ouais, mais l'amour, c'est puissant, hein? C'est ça. Des fois, il n'y a pas de mots qu'on doit mettre dessus, mais c'est là. Et donc, sachant que tu es avec Benoît depuis 2 ans, tu as 2 garçons que tu as eus, donc, d'une autre union.
Oui.
Donc, il y a Brian.
Brian, qui a 33 ans, qui habite toujours avec moi.
Mm.
Et c'est devenu mon père. On en reparlera après.
Wow!
Puis j'ai Alex, qui a 22 ans, qui lui est en appartement maintenant.
Et Brian, c'est un choix de vivre avec toi, justement, pour t'offrir plus de soutien et une présence, j'imagine?
Ben maintenant, oui, mais on s'est toujours bien entendu. Écoute, comme tout le monde, là, on a des petites histoires, là, mais on s'entend bien. Puis il y a des passions qui sont comme moi. Il aime le hockey, on écoute ça ensemble. Puis on s'entend bien comme coloc, là, dans le fond.
Mais c'est parfait.
Oui, oui.
Et donc.
Oui, vas-y.
Non, mais j'allais dire, en début d'émission, en te présentant, je disais évidemment que tu es devenue non-voyante subitement, il y a donc 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé en, en, En commençant par le moment où ton plus jeune fils t'a retrouvé dans ta chambre sans connaissance.
Exact. Il s'en venait me dire bonne journée. Parce que lui, il s'en allait avec reconduire sa blonde au cégep. Et ils sont venus dans la chambre, puis ils m'ont trouvé à moitié sur le lit, à moitié par terre. Évidemment, ils ont été pris de panique. Mon fils m'a descendu encore plus. Il a commencé des manœuvres de réanimation. Mm-hmm. Mais sa blonde lui a dit, garde, tasse-toi. Moi, j'ai pris mon cours de réanimation. Elle a dit, je vais y faire. Elle a dit, toi, va appeler le 911. Mm-hmm. Fait que elle m'a fait des manœuvres de réanimation jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Puis dans le fond, j'en ai encore des frissons en te parlant. C'est elle qui m'a sauvée.
Aïe, 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 wow.
C'est ça, là, ils m'ont emmenée tout de suite à l'hôpital. J'ai été 3 semaines aux soins intensifs. Et ils m'ont... j'étais pas dans le coma, mais pas loin, là. Je me souviens plus de rien. Ce que je vous raconte à partir de là, aux soins intensifs, c'est mon fils qui me l'a raconté, mes fils. Et puis, mon meilleur ami aussi qui était là tout le temps. On m'a amené là. On m'a dit que mon cœur avait arrêté de battre pendant 12 secondes.
Aïe, aïe, aïe.
Et que souvent, à 12 secondes, on n'arrive pas à réanimer les gens. Donc, c'est ça. Ils m'ont soigné. Ils m'ont mis sur respirateur, évidemment. Et puis, j'ai été là 3 semaines. J'ai eu quelques complications. Entre autres, j'ai fait un pneumothorax. C'est l'air qui rentre à l'extérieur des poumons. Donc, ils ont dû faire un trou rapidement sur le côté pour mettre un drain pour sortir l'air.
C'est quelque chose.
Ils vont tout ajuster ça. Et j'ai fait une réaction. Ils m'ont donné de la pénicilline. Et j'ai fait une réaction d'allergie à cette sorte de pénicilline-là.
Ça, vous le saviez pas avant que vous aviez une allergie à la pénicilline?
Aucune idée. Okay. Aucune idée avant ça. Donc, ça s'est compliqué un petit peu. J'avais fait aussi une réaction parce que je suis allergique à l'iode et mon fils ne le savait pas. Donc, si vous avez des allergies, là, dites-le à tout le monde alentour. Parce que j'ai fait une grosse réaction et j'ai été 3 jours avec les jambes rouges et qui me piquaient. On me frottait avec de la cortisone puis on m'avait mis du Benadryl en intraveineuse. Là. Mais bon, j'ai eu des bons soins puis à l'hôpital, j'étais au CHUM.
Okay.
Et après 3 semaines, j'ai été dans une chambre régulière encore avec des soins particuliers un peu, là, mais ça allait bien, j'étais plus sur respirateur. On m'avait même fait une laryngectomie, là.
Okay.
Mais ça a été de courte durée, on a rebouché ça.
Mais là, je veux dire, il y a tellement de choses qui se sont passées. Est-ce que à travers ces étapes, vous aviez une idée de ce qui se passait ou c'était une nouvelle après l'autre? Et parce que vous
c'était
dites...
une nouvelle après l'autre. J'étais plus ou moins, quand j'étais aux soins intensifs, bon. Il y a des choses qui faisaient puis je savais pas. Ces étapes-là, je savais pas.
Oui.
Mais quand j'ai suis retournée dans une chambre régulière avec là, c'est là que je me suis rendue compte que écoute, je vois plus là. Qu'est-ce qui se passe?
Mais donc, vous vous êtes réveillée après tout ça pour vous rendre compte que en fait, vous ne voyez plus du tout.
Exactement. En fait, je pensais que je voyais des ombres, mais même pas. Là, à ce moment-là, je ne voyais pas ça. Ils m'ont dit que ça ne deviendrait jamais 100% comme avant.
OK.
Maintenant, je suis capable de voir les couleurs, mais je ne distingue pas ce qui se passe alentour.
Donc, ça reste bon, quand même très flou.
Oui, tout à fait.
C'est de vous entendre nous raconter tout ça, c'est pour vous ça doit être un choc, mais même pour nous de l'entendre, c'est ouf, ça doit être tout un vécu, oui. Et
oui, tout à fait.
Et
comme... on me pose plein de questions, là, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je fais quoi avec ça?
Et justement, puis les premiers soins aussi, beaucoup de personnes non-voyantes nous disent, ben, comme vous, hein, que Vous vous retrouvez un peu tout seul, donc comment vous fonctionnez après, par la suite?
Exact. C'est là que je trouve que le bas blesse, parce que à l'hôpital, on nous donne des soins physiques.
Oui.
Mais pour le côté émotionnel, moral, il n'y a rien du tout.
Oh.
Et là, moi, j'ai été quand même un mois après ça dans une maison de réadaptation.
Mm-hmm.
Et j'ai fait de l'exercice pour être capable, parce que là, j'avais perdu toute ma musculation.
OK, oui.
Alors là, j'ai été là, on a fait ça. J'ai dû réapprendre à tenir une fourchette, un couteau pour manger, réapprendre à marcher. Je me promenais avec une marchette au début, ensuite avec une canne, mais tout ça, on nous le dit pas qu'est-ce qui va se passer quand on est à l'hôpital, puis on devrait nous dire, regarde, il y a telle étape qui va arriver, il y a telle chose qui va arriver.
Mais oui.
Et ensuite de ça, je me suis inscrite, on m'a dit de m'inscrire à l'Institut Nazareth Louis-Braque.
Mm-hmm.
Et là, c'est eux, malheureusement, ils sont super débordés, occupés. Ça prend du temps avant qu'on ait de l'aide, des ressources. Mais finalement, bon, eux autres, ils viennent, ils nous aident. On m'a fait connaître à partir de là l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Et là, avec eux autres, j'ai fait un bon bout de chemin. Là, j'ai réappris à m'extérioriser un petit peu.
Oui, et puis à revivre et reprendre un peu possession de vos moyens malgré tout.
Exact.
Ça m'amène en fait à passer à la pause musicale, parce que c'est tellement un beau message et c'est vous qui avez choisi cette chanson-là. On va aller l'écouter,
oui.
Et on se retrouve tout de suite après.
Parfait, merci.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just tell you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
C'était Gloria Gaynor et sa chanson, et oui, qu'on aura reconnue une fois de plus, « I Will Survive ». Et Linda, on comprend déjà un peu hein, pourquoi c'est une chanson qui vous parle, mais expliquez-nous pourquoi.
En fait, ça me parle en deux façons. C'est une chanson que là, j'écoutais à répétition quand elle est sortie. J'étais jeune ado. Et ça me disait, tu sais, comme une histoire d'une femme forte qui va survivre. Puis la musique venait me chercher aussi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup écouté cette chanson-là. Et puis, comme on disait tantôt avec mon histoire, moi, j'ai comme une deuxième vie qui recommence.
Oui.
Suite à mon... j'aime pas dire mon accident.
Mm-hmm.
Je vais dire mon incident.
D'accord.
Et c'est comme une deuxième vie. Puis oui, I will survive. Je vais survivre à ça. Puis je vais devenir plus forte. Et effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Puis c'est pour ça que cette chanson-là vient me chercher.
Et puis on comprend pourquoi. Parce que... juste quand on entend, bon, oui, je vais survivre, mais j'ai toute ma vie à vivre et j'ai aussi tout mon amour à donner. Mais vous êtes une
exact.
Femme qui est très bien entourée, puis même entourée beaucoup d'hommes, même, hein, je
oui,
dirais,
oui.
par vos fils, votre copain, votre conjoint. Mais c'est, je sais, en fait, pour vous, c'est une énorme richesse, ça, surtout, ben, en fait, j'imagine bien depuis toujours, mais depuis votre incident, ça prend encore plus tout son sens.
Ah, totalement, totalement. Et si j'avais pas eu ces gens-là alentour de moi, je sais pas si je serais ce que je suis aujourd'hui. Avec, Daniel, mon meilleur copain là, qui était là tout le temps aussi à l'hôpital, puis il est toujours là d'ailleurs, mes enfants, et maintenant Benoît qui est toujours là.
Oui.
Et c'est une force. Il faut aller chercher, puis écouter un petit peu aux alentours de notre entourage. Moi, au début, la première année après ça, j'étais un peu bougonne, j'étais renfrognée.
Mm-hmm.
Puis j'étais vraiment pas fine, pour dire le mot.
Okay.
Même avec mon fils qui prenait soin de moi, qui était devenu mon papa, là.
Oui.
Mon papa poule.
Papa, c'est beau, c'est mignon, ça démontre bien votre, votre complicité.
Oui, exactement, mais c'est ça... j'étais renfrognée pour la première année, puis à un moment donné, j'ai appris le mot résilience. Puis tu sais, ces choses-là aussi, c'est comme un deuil. Il faut passer à travers les étapes. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bon, t'as le choix de te rouler en petite boule à terre puis de pleurer sur ton sort, ou de te relever puis prendre la chance qui t'est donnée de vivre à nouveau, là, tu sais.
Oui.
Puis j'ai choisi de vivre à nouveau puis de continuer de travailler fort, à être bien, puis à aider les autres.
Est-ce que c'était le bon choix, Linda?
Ah, tellement. Mais tellement le bon choix. Puis, si j'ai quelque chose à dire aux gens à qui ça pourrait arriver, parler. Parlez-en aux autres, puis laissez parler vos émotions. Puis, il y a des choses qui sont non dites, tu sais. Quand ça nous arrive, on assume que les gens devraient comprendre
oui, c'est
ce qui
vrai.
Se passe et de quoi on a besoin.
Mm-hmm.
Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que ils n'ont pas vécu ça, eux autres, de devenir aveugles, puis ils ne savent pas. Donc, il faut en parler, puis il faut bien s'entourer. C'est le plus important dans ça.
Je suis contente que vous le disiez parce que, oui, dans un cas comme vous, où vous perdez la vue d'un jour à l'autre, et même, j'ai envie de dire, n'importe qui vit, et votre mot aussi, j'aime bien le mot incident, on vit tous des choses dans notre vie qui, des fois, on n'a pas prévu, qui nous demandent justement de faire ce choix hein, dont vous parlez, de soit rester en petite boule ou de s'adapter,
mm-hmm.
de développer cette magnifique résilience. C'est un beau message de force et d'espoir. Et d'ailleurs, vous le transmettez à travers le groupe Facebook Mousquetaires avec Canne Blanche gagne de plus en plus de membres. Vous êtes rendu à combien de membres aujourd'hui?
On a plus de 400 membres et puis on a commencé ça en décembre.
Wow!
Dernier. Fait qu'on est rendu à 400 membres. Je suis très fière de ce groupe-là. C'est parti d'une idée de Martin. Martine Bédard, Lucie Giroux et moi-même.
Oui. Oui.
On s'est rencontrés à INCA, puis on est trois personnes qui, je pourrais dire, je connais pas l'expression française, mais tu sais, on a de la braise.
Oui, c'est beau, c'est bien dit.
Et puis, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis justement, les trois, on trouvait que, bon, il nous manquait un peu après d'intérêt en quelque part. Mm-hmm. Là, on a dit, on va faire un groupe où on va aider les gens qui ont vécu la même chose que nous autres, ou semblables.
Oui.
Et puis, pour les sortir de l'isolement, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut sortir de l'isolement, puis on n'a pas toujours tous les atouts pour le faire, nous autres-mêmes.
Oui.
Donc, c'est important. Puis avec le groupe, on fait toutes sortes de choses. On fait des jeux à chaque semaine. On fait des ateliers techno. On s'aide entre un et l'autre. C'est vraiment spécial, puis c'est le fun. Moi, personnellement, je me sens bien à faire ça.
Mm-hmm.
Parce que ça a toujours été dans moi. Exemple, quand je travaillais, je me disais, à ma retraite, tu vas aller faire du bénévolat à Sainte-Justine pour les enfants malades.
Mm-hmm.
Évidemment, ça a été une grosse déception pour moi. J'en ai pleuré parce que je pourrais pas faire ça.
Oui.
Mais là, mes petits-enfants, c'est mes amis Facebook dans le groupe.
Ben oui.
Avec qui on peut aider, là, tu sais.
Ben tout à fait. Et c'est incroyable parce que vous avez eu besoin d'aide, vous en parlez énormément, vous en êtes très reconnaissante, mais c'est incroyable comment c'est presque automatique. Vous aussi, votre envie et votre besoin de donner en retour, c'est
tellement.
C'est ça, c'est tellement bon pour vous et pour les autres.
Oui, tout à fait. Puis c'est ce que j'essaie de montrer aussi aux autres, de dire, regarde, en t'extériorisant puis en parlant avec du monde, ça fait du bien, sort de ton isolement.
Bien sûr.
Puis reprends ta vie en main, on est capable. Puis je me plais à dire, lorsqu'on a perdu la vue, on est capable de tout faire, mais c'est plus lent, plus lentement.
Mais c'est possible malgré tout.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Et d'ailleurs, vous avez plusieurs passions. Bon, on l'a dit en début d'émission, vous êtes un peu beaucoup une maniaque de hockey. D'ailleurs, c'est quoi la meilleure façon pour vous d'écouter un match? Est-ce que à la radio ou versus une vidéo description d'un match, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour une personne non-voyante?
En fait, je le regarde quand même à la télé. Mais si je suis pas à la maison, je vais le prendre à la radio.
Okay.
Puis la description se fait dans un comme dans l'autre. Mais il n'y a pas d'audio description, sauf que tu as des commentateurs qui décrivent le match, donc ça va bien.
Donc c'est quand même égal à la télé versus à la radio malgré tout.
Oui, oui, okay. Tout à fait.
Bon, c'est bon à savoir pour ceux qui voudraient s'y mettre aussi. Donc, on parle de hockey, mais vous êtes une grande lectrice et une grande consommatrice de livres audio, évidemment.
Oui, tout à fait. J'ai toujours été une grande lectrice. Puis quand je suis tombée aveugle les premiers temps, j'étais bien en peine là, parce que je me disais, je ne pourrais plus lire.
Mais
finalement, en découvrant les livres audio, là, mon Dieu, c'est tellement le fun, c'est tellement... ça peut être relaxant, ça peut être enivrant, ça t'amène dans un autre monde. Là.
Mm.
Donc, je peux continuer ça, puis je suis très, très heureuse. Là.
Quel est votre livre préféré que vous avez écouté jusqu'à aujourd'hui?
Que j'ai écouté... mon Dieu, j'ai plusieurs choix. Je dirais probablement un livre de Michael Connelly.
OK.
Qui est un auteur. J'aime beaucoup les choses qui sont de justice,
mm-hmm.
des enquêtes policières.
Oui.
J'ai plusieurs auteurs que j'aime, mais un livre en particulier, je ne pourrais pas dire juste un.
c'est ce qui nous prouve que vous êtes une passionnée.
C'est comme la musique. J'adore la musique. Il y a toujours eu de la musique dans ma vie. Je ne pourrais pas nommer une chanson que c'est la Will Survive, oui, là, mais... Je pourrais pas nommer ma préférée de toutes. Là.
Bon, ben alors là, en fait, le message que vous nous passez, c'est peu importe, on s'arrête pas juste sur un livre ou une chanson, on prend tout le maximum qu'on peut.
Ah oui, tellement, là. Puis moi, c'est ça, je me dis, sais, comme je disais tantôt, là, j'ai une deuxième chance à la vie, puis j'en profite, puis je veux aider les autres là, qui ont de la misère avec ça. Puis les mousquetaires, ça me permet de faire ça aussi, là, d'aider les gens. Puis je me sens aussi bien de les aider que de moi me faire aider dans un sens.
Mm-hmm, mm-hmm. Ben, écoutez, Linda Curley, votre message est très clair. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont appris des choses avec des trucs, hein, des astuces que vous nous avez données aujourd'hui. J'invite les personnes qui ne sont pas encore membres de votre groupe Facebook
Mousquetaires
avec Canne Blanche d'aller demander leur adhésion. Puis je vous souhaite en fait juste de profiter de la vie, Linda, de continuer à faire tout ce que vous faites.
Merci beaucoup, Camille, puis je te souhaite la même chose.
C'est très gentil, je le prends avec plaisir. Bonne journée.
Merci à toi aussi, au revoir.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Raphaël Tousignan. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, toujours ici présente et j'ai le plaisir, comme toujours, de recevoir ma deuxième invitée aujourd'hui qui s'appelle Raphaël Tousignan. Bonjour Raphaël.
Allô.
T'es en pleine forme?
Oui, et toi?
Oui, certainement. Raphaël, tu as 18 ans et tu es athlète en para-hockey ou hockey luge. Là, on va justement un petit peu démystifier ça ensemble. Que je dise hockey luge ou para-hockey, c'est la même chose?
Oui, exactement. En fait, c'est para-hockey, c'est le terme en fait qui est employé depuis en fait les derniers Paralympiques, les Jeux paralympiques.
Mm-hmm.
On a fait on a changé pour le para-hockey pour vraiment relier le sport du para-hockey au paralympique, donc en utilisant le para. Mais on peut autant utiliser le mot hockey luge que para-hockey, là, c'est la même chose. Puis même que les gens vont plus connaître le sport sous le nom de hockey luge, mais de plus en plus, on fait la transition vers le mot para-hockey.
OK, très bien. Et puisqu'on parle de ça, évidemment, ça fait combien d'années d'ailleurs que tu pratiques ce sport-là?
Ça fait environ 7 ans. J'ai commencé à jouer, là, c'est comme j'ai fait une demi-saison. Là, fait que je considère 7 ans, peut-être 7 ans et demi environ là,
oui.
Que je joue.
Et évidemment, la raison pour laquelle on est ensemble et on discute aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ta différence à toi, de ton handicap, ce qui fait que, oui, tu fais du para-hockey. Est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire à toi? Comment ça s'est manifesté?
Oui, en fait, à l'âge de 9 ans, pour être plus précise, je suis tombée à la ringuette sur ma hanche droite. Puis, il y a une bosse qui est sortie sur ma fesse et ma hanche vers l'extérieur. Elle était assez grosse, puis elle était chaude. Puis, ça me faisait mal quand je restais, en fait, statique. Fait que quand je bougeais pas, j'avais vraiment mal. Dormir, c'était rendu quelque chose qui était quasiment impensable.
Mm-hmm.
Fait que je faisais beaucoup de sport, justement, pour pas avoir mal. Puis, quand je suis allée voir ma pédiatre vers le mois de juin, en fait, elle m'a dit « c'est pas normal ». Elle a pensé déjà que c'était cancéreux.
Okay.
J'ai fait des tests. On a découvert que c'était un ostéosarcome, un cancer des os, en fait, qui était situé dans ma hanche. Puis de là, j'ai fait 3 mois de chimiothérapie. On a réévalué la situation. La chimiothérapie ne marchait pas sur ma tumeur. Elle n'avait pas grossi, mais elle n'avait pas rapetissé non plus. Mmh. Puis là, j'avais 2 choix. Le premier qui était de me faire amputer ou de garder ma jambe, mais qu'elle allait être molle, étant donné que mon nerf sciatique était dedans la tumeur,
mm-hmm.
Puis que je pourrais pas remarcher, en fait, sans appui. Fait que j'aurais tout le temps besoin de béquilles ou quelque chose comme ça pour marcher.
Mm-hmm.
Donc, avec mes parents, on a pris la décision de me faire amputer, puis que je pourrais remarcher, en fait, avec une prothèse, comme je le fais aujourd'hui, sans appui, à part la prothèse.
Mais oui.
Puis, suivant l'amputation, j'ai fait un six mois de chimiothérapie par prévention pour être sûr que le cancer était vraiment disparu.
Et ça a été le cas après ces 6 mois?
Oui, exactement. Ça fait 8 ans, bientôt 9, que je suis en rémission de mon cancer.
Wow! Quand même, hein? Ça doit être un choc. Comment tu l'as vécu? Parce que, je veux dire, à 9 ans, tu es toute jeune, tu bouges, tu fais du sport et une chute change presque tout.
Ouais, c'est sûr que à 9-10 ans, là, parce qu'en fait, j'ai eu 10 ans au mois de juillet, quand c'est après de l'avoir su que j'avais cancer. Je pense que c'est une certaine naïveté encore d'être enfant.
Oui, oui.
Et ça, pour moi, c'est un peu drôle à dire, mais j'associais vraiment le cancer aux enfants, un peu que je voyais à Enfant Soleil, là, qui ont plus de cheveux. C'était pas mal juste ça pour moi, le cancer. J'avais pas nécessairement la... Je comprenais pas vraiment à quoi je faisais face. Okay. Heureusement, je pense que ça a été positif dans le cas que quand j'ai dû apprendre que j'allais me faire amputer, ben j'étais vraiment... C'était pas le côté plus difficile que je voyais vraiment de pas pouvoir remarcher ou, tu sais, avec une prothèse. C'était pas le fait que peut-être les gens allaient me voir d'une super manière. C'était vraiment le fait que je pourrais plus faire de sport.
Mm.
Comme j'ai dit, moi, je jouais à la ringuette, puis c'était vraiment important pour moi. J'ai tout le temps été une grande sportive.
Oui.
Donc, le fait de plus pouvoir faire de sport, ben c'est ce que je croyais, du moins.
Mm.
Ben c'était quelque chose qui m'a vraiment préoccupée. Puis j'ai même... j'ai fait, en fait, mon deuil de la ringuette. Là, mon père m'a organisé, juste avant mon amputation, une grosse journée avec toutes mes anciennes coéquipières que j'avais joué avec eux à la ringuette.
Mm.
On a retiré mon chandail de l'association pour qui je jouais. Fait que j'ai vraiment embarqué sur la glace pour une dernière fois, puis j'avais fait vraiment mon deuil de la ringuette.
Wow.
Mais finalement, au final, je me suis retrouvée sur la glace quand même en jouant au para-hockey.
C'est merveilleux, ça me donne des frissons de t'entendre, parce que on peut penser, comme tu dis, oh, le choix de se faire amputer, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien qui vient après, mais pour toi, c'était presque une libération, ou en tout cas, ça te redonnait une autre liberté.
Oui, justement, là, on s'en est déjà parlé en entrevue, mais
oui.
Si, en fait, moi, plus jeune, j'étais un enfant qui était un peu victime d'intimidation. J'étais un peu plus ronde que les autres. J'avais vraiment un gros manque de confiance en moi.
Mm.
Puis, quand j'ai appris que j'avais le cancer, puis j'allais devoir me faire amputer, ça a comme été un wake-up call, comme on dit en anglais,
oui.
De faire comme là, si tu veux vivre, faut que tu t'acceptes puis que tu montres aux autres que tu vaux la peine, en fait, que t'es une personne à part entière, puis c'est pas parce que t'es différente, que t'es un peu plus ronde ou qu'il oui. manque une jambe, que tu dois t'arrêter à ça puis juste te définir comme ça. Fait que ça a vraiment été un changement dans mon attitude, dans ma façon de me présenter, dans ce que je dégageais aux gens. Et ça m'a vraiment quand même apporté beaucoup de positif, mon amputation, là.
C'est tellement un magnifique message, j'allais dire pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, évidemment, qui t'entendent. Parce que là, on parle d'intimidation, d'acceptation de soi, d'amputation. C'est quand même un gros vécu pour toi, dans ton enfance. Mais la façon dont tu le vis aujourd'hui, c'est un message tellement important. Parce que même si on parle pas d'amputation... Tout le monde, on a pu déjà vivre une certaine intimidation ou, comme tu dis, le fait d'être moins bien dans notre peau parce qu'on a une différence X et du fait de faire face au regard des autres sur nous, c'est tellement important pour justement être plus épanoui.
Oui, exactement. C'est la clé, je pense, du bonheur. Bien, c'est tout ce qu'on... En fait, tout ce qu'on va partager aux gens, ce qu'on va faire ressentir aux gens de notre personne, en fait, c'est ce qu'on va attirer d'une certaine manière.
Mm-hmm. Parce
que c'est le gage positif, de la confiance, puis tout ça, bien, c'est ce que les gens vont vouloir t'amener à toi aussi, là.
Complètement. Complètement. Et là, je me demande, parce que là, t'as dû faire une croix sur la ringuette. Il n'y a pas de ringuette paralympique qui existe aujourd'hui?
J'ai déjà entendu parler qu'il y avait de la ringuette sur luge qui existait. L'endroit, je me rappelle plus trop, là, mais ça pourrait exister, mais ce serait pas autant développé que le para-hockey.
Oui, OK.
Puis c'est un peu spécial parce que oui, j'avais vraiment beaucoup une passion pour la ringuette, mais je me suis aussi découvert que plus jeune, j'avais une certaine haine envers le hockey. Là. Ma famille, ça a vraiment été souvent très important, le hockey, puis... Mon frère était un peu moins bien vu dans la famille si je faisais ça comme ça parce qu'il jouait pas au hockey. Fait que j'avais une certaine haine par rapport au hockey. Mais pourtant, j'ai grandi en regardant le hockey à chaque samedi, le mm-hmm. match du Canadien avec ma famille et tout ça. Puis, quand je suis embarquée sur la glace, en fait, c'est dans mon sang le hockey. Fait que ça a été comme vraiment mon amour avec le sport et tout ça. Fait que maintenant, je pense que si tu me donnerais l'option entre la ringuette et le hockey, je choisirais pas nécessairement la ringuette,
mm-hmm.
pour être honnête.
écoute, mais merci pour ton honnêteté, mais c'est incroyable comment au final, comme tu dis, tu as appris à tomber en amour malgré tout. Ça devait être ton sport, comme quoi tu es d'accord,
ouais.
Hein, pour dire que, comme on dit, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien
arrive
dans
pour
la
rien.
Vie.
Exactement.
Wow! Et quand tu étais plus jeune... Comme tu le disais, à 9-10 ans, ben, à l'école avec les enfants, tu étais comme un peu une deuxième Raphaël ou une Raphaël en tout cas différente. Comment tu l'as vécu auprès des autres enfants? Parce qu'ils devaient être très curieux, ils ont dû te poser énormément de questions.
Ben, pour vrai, j'ai vraiment été chanceuse après mon amputation parce que j'ai pas vécu d'intimidation. En tout cas, les gens, s'ils parlaient de mon handicap en mal ou de moi en mal, j'en ai pas eu conscience. Fait que ça, je me compte extrêmement chanceuse parce que je sais que c'est, je suis chanceuse parce que les gens, habituellement, qui ont un handicap, ben pas habituellement, mais il y en a plusieurs personnes que je connais qui ont été victimes d'intimidation due à leur différence.
Oui, malheureusement, oui.
Et moi, ouais, c'est ça. Puis, moi, quand j'ai tombé malade, j'étais en 4e année, donc j'ai fait ma 5e année à distance à l'hôpital. Mais la classe dans laquelle j'aurais dû être m'ont vraiment beaucoup épaulée. On a gardé un bon lien. Les enfants étaient vraiment au courant de à quoi je faisais face, qu'est-ce qui allait arriver, puis tout ça. Puis même qu'à la fin de ma 5e année, quand j'ai été en rémission de mon cancer, je suis allée chez ma professeure qui faisait comme un peu un pool party avec tous les enfants. Fait que j'ai revu les étudiants avec qui j'aurais dû être dans ma classe. Puis après ça, ben, j'ai fait ma 6e année, puis tout le monde était gentil. Après ça, au secondaire, ben, j'ai réussi à vraiment apporter le fait que je sois un athlète avant d'être une personne handicapée, que je sois Raphaël avant d'être une personne différente.
Oui, voilà.
Entre autres, j'ai fait des essais de para-hockey. Fait que les gens voient vraiment un côté que, premièrement, du sport, parce que ben, souvent, les gens, quand ils voient le para-hockey, ils vont penser assez tout de suite aux personnes handicapées, fait que c'est plus facile.
Oui.
Mais au contraire, la plupart du temps, les parasports sont beaucoup plus difficiles, surtout pour le haut du corps. Les gens ne sont pas habitués à ça. Donc, de voir les gens qui ont vraiment changé leur perspective de l'handicap, mais de moi aussi en tant que personne, ça m'a vraiment aidé à être pas juste mon handicap, pas me définir par mon handicap, mais vraiment par la personne que j'étais, puis en étant athlète.
Que c'est beau. En final, ça montre que oui, le handicap, il y a des préjugés où on se fait des images rapidement, mais très collé au handicap, on peut tout de suite se mettre des images et des mots de puissants, de force, de détermination. Donc, le handicap, j'ai envie de dire, ça peut être un super pouvoir aussi. Bon, en tout cas, on dirait que c'est un petit peu comme ça, toi, que tu le vis et que tu l'utilises.
Oui, bien, en fait, c'est que moi, quand j'ai pris la décision, en fait, de me faire amputer, bien, c'est on ne dramatise pas, mais c'est quand même ça. C'est que c'est soit je vivais ou soit je mourais. Parce qu'au point que je suis rendue, il n'y avait pas de point de non-retour. Mm-hmm. C'est soit que j'essaie de m'amputer ou ben je laisse le cancer un peu m'abattre, en fait.
Mm-hmm.
Fait que quand j'ai pris la décision de me faire amputer, c'est comme si j'ai décidé de vivre. Fait qu'à ce moment-là, si je veux vivre, ça serait un peu ridicule que j'ai un handicap, fait que je peux rien faire, que je m'arrête à mon handicap.
Oui, c'est vrai.
Que je me prenne un peu en pitié parce que j'ai décidé de vivre. Ben, de là, si j'ai décidé de vivre, ben, je vais vivre ma vie à 100%. Je ne vais pas m'arrêter à ce que les gens peuvent penser ou peuvent me mettre comme barrière. Surtout, là, moi, je vais me créer mes propres barrières.
Oui.
Puis je vais même essayer de les dépasser. Là.
Que c'est beau, Raphaël. Sur ces belles paroles, on passe à la pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Been flying solo for so long, nobody singing the harmony. Up there just me and my shadow, no bass, no guitar, no tambourine. And I found you like a melody, you were singing in the same key as me. We had them dancing in the streets. I don't wanna be a one man band, I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Maybe we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. I don't wanna be a one-man band. No. I wanna run down your wild dreams. Wanna chase every high with you, count every rip in these old jeans. We'll never learn how
how to sing the blues. If I'm gonna be famous, girl, I wanna be famous with you. We got our own little groove. I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Baby, we can take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. I don't wanna be a one-man band. When the spotlight goes cold, the curtains come down, the chairs are all stacked and there's no one around, and nobody's paying, we'll still be playing. I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown band. Baby, we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand, 'cause I don't wanna be a one-man band.
Du bon vieux country, comme Raphaël l'aime, c'était la chanson One Man Band de Old Dominion. Pourquoi tu as choisi cette chanson, Raphaël?
J'adore le country. Ça, c'est quelque chose que ça peut paraître surprenant, mais j'aime vraiment beaucoup le country. Je trouve que c'est vraiment la musique qui, pour toutes les émotions, que ce soit une mauvaise journée, une bonne journée, puis c'est pas juste, on parle de pêche, de chasse, de bière, c'est pas juste ça, là. J'aime vraiment beaucoup cette musique-là. Puis, cette chanson-là, elle est sortie, mais en fait, elle est devenue popularisée au moment que j'étais dans mon camp en 2019 avec l'équipe nationale développement masculine. Mm-hmm. C'est vraiment un moment marquant pour moi. Puis j'aime beaucoup les paroles aussi de fait que il va être en équipe. Ben là, dans ce cas, c'est en couple, mais vraiment, tu sais, j'aime vraiment beaucoup les paroles. Puis ça, c'est associé à ce moment-là. Fait qu'il y a un beau moment. J'aime bien cette chanson.
Et tu nous parles donc des camps d'entraînement. Explique-nous un peu ce que tu fais, parce que tu t'entraînes dans une équipe avec des femmes, mais aussi avec des hommes, comme tu viens de le dire. Comment tout ça est possible?
Donc, en fait, je suis sur l'équipe nationale féminine. Par contre, ce que je dois mentionner, c'est que les femmes ne sont pas aux Paralympiques en ce moment. C'est supposé être en 2026, mais le roster des sports officiels est sorti, puis on figure pas sur la liste.
Quel dommage.
Malheureusement, c'est à quoi on fait face, mais là, on vise plutôt 2030 avec les femmes. Pour ma part, je suis déjà beaucoup inclus dans le para-hockey masculin, donc sur l'équipe provinciale masculine, je suis la seule femme, en fait. Mm-hmm. Puis en 2019, avant la COVID, j'ai fait l'équipe nationale développement masculine, donc l'équipe juste avant, un peu le club école de l'équipe nationale masculine. Avec ma capitaine Christina Picton de l'équipe l'équipe nationale féminine. Puis c'est ça. Fait que je joue autant avec les filles qu'avec les gars, plus avec les garçons, parce que je vois juste l'équipe des filles quand je suis en camp avec eux quelques fois pendant l'année. Mm-hmm. Puis ben c'est ça. Étant donné que les femmes ne sont pas aux Paralympiques, ne seront pas aux Paralympiques en 2026, si je veux faire les Paralympiques, je me suis donné comme objectif personnel de faire l'équipe nationale masculine pour aller aux Paralympiques avec les hommes.
Ben oui.
Parce que présentement, le para-hockey est considéré comme un sport mixte. Donc, mixte. La définition de mixte, ça reste à voir parce que, en fait, la règle, c'est qu'on a droit à une fille sur l'équipe. Donc, dans le lot de 15 joueurs, on a droit à un joueur de plus si c'est une femme. Donc, la femme ne compte pas dans le lot de joueurs, mais on a juste droit à une. Fait que la notion du mix,
oui, elle est à revoir. Oui, je suis d'accord.
Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, mon but, ça c'est justement vu en Norvège, cette règle-là, que j'ai vu en Norvège des femmes qui ont fait équipe. Ben c'est ça. C'est de faire l'équipe provinciale, l'équipe nationale est masculine, puis après ça, aller aux Paralympiques d'ici 2026 environ.
Wow! Donc t'as encore du temps devant toi pour bien t'entraîner très, très, très fort. Ouais. Mais je sais que tu as une citation qui appuie bien, parce que tu nous dis, bon, il n'y a pas d'équipe féminine aux Paralympiques, mais pour toi, c'est un problème, mais OK, on le pousse, puis on trouve une solution. Ta solution, c'est d'aller donc dans l'équipe avec les hommes. C'est quoi ta citation qui t'inspire beaucoup en ce moment, justement?
Ben, en fait, c'est que la citation, là, je pourrais pas la traduire, c'est une façon anglophone, je pourrais pas la traduire mot pour mot, mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que l'impossible est une définition que chacun des humains se donne. Donc, ma définition de ce qui est impossible ne sera pas la même qu'une autre personne. Donc, pour moi, faire l'équipe nationale masculine est très possible. Par contre, il y a d'autres gens qui pourraient dire, ben non, c'est impossible au niveau physique. Puis, tu sais, ils ont des super bons arguments, mais de mon côté, je vois ça très possible. Donc, c'est de garder ça en tête que oui, il va y avoir des gens sur mon processus pour faire l'équipe qui vont me dire, ben non, c'est impossible, mais moi, c'est de rester vraiment focusé sur mon but,
oui.
Puis parce que moi, je pense au fond de moi que c'est possible, puis m'entourer des personnes qui pensent aussi que c'est possible.
Donc, tu ne te laisses pas influencer par les autres personnes qui vont être un peu plus défaitistes. Et ça, je pense que c'est une grande force que tu as aussi, et c'est ce qui fait que tu peux faire tout ça. D'ailleurs, je tiens à mentionner que en plus de t'entraîner, tu es évidemment en plus étudiante, donc en arts et lettres, en communication, mais ton but, c'est de devenir enseignante par la suite.
Ouais, exactement.
Et tu as même reçu, une ou plusieurs bourses d'excellence académique.
Ouais, j'en ai reçu quelques-unes, merci. Dont la formation La Tête de l'Excellence, dont du Journal de Montréal. Donc, je suis très chanceuse de pouvoir être soutenue par des gens qui pensent que je peux accomplir mes rêves puis qui croient en moi.
Et ils ont tout à fait raison de t'appuyer parce que tu es tellement un beau modèle pour tout le monde. Mais je trouve particulièrement pour les jeunes, évidemment, sachant que tu as 18 ans et tout ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. Et je veux qu'on parle d'une chose parce que tu es la seule femme dans une équipe masculine. On sent qu'il y a une force en toi. Et justement, je sais qu'en ce moment, tu es célibataire. Comment ça se passe pour toi? Comment tu entrevois en fait ta vie plus sentimentale ou amoureuse?
Pour être honnête, là, si je pense, c'est vraiment de mon côté ce que je pense, puis je veux pas trop généraliser, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'en fait, de mon côté, étant attirée par les hommes, puis en justement, vu que je suis dans une équipe de garçons, je vois mes teammates en fait avoir des relations avec des femmes et tout ça, je crois qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit chez les femmes face à l'handicap, face à la différence, que chez les hommes ne se retrouvent pas. Ou vraiment, tu sais, c'est vraiment moins présent que chez les femmes. Les femmes, je pense qu'on est vraiment plus maternelles. Je pense qu'il y a un côté plus maternel qu'on a qui nous aide à être à l'aise avec la différence, à aller vers la différence parce qu'on dit que c'est pas grave. Puis c'est la personne m'attire au niveau personnalité et physique avant son handicap. Ben, je vais pas m'arrêter à l'handicap par peur que la personne ne soit pas notamment autonome ou quoi que ce soit. Puis au contraire, je pense que la plupart des personnes qui ont un handicap sont vraiment autonomes. Là, on a une sorte de caractère, je pense, que beaucoup plus élevée qu'une personne qui aurait sans handicap, en fait.
Oui, mais
donc
je te coupe, je m'excuse, Raphaël, mais je me demande, parce que tu dis sur le fait que, bon, tu fréquentes beaucoup de garçons étant dans l'équipe masculine. Eux aussi, donc, ont des handicaps. Ils sont tous handicapés. Mais même eux, tu trouves que leur vision, en fait, de l'acceptation du handicap, ils sont en couple, mais avec toutes des personnes qui ne sont pas handicapées?
C'est sûr qu'il y a certaines exceptions à la règle.
Oui, bien sûr.
Mais c'est sûr qu'eux-mêmes vont être attirés vers des personnes qui n'ont pas d'handicap.
Okay.
Je ne vais pas généraliser encore.
Ben non.
C'est sûr que c'est sûr, à la règle, mon ex-copain était un garçon qui était handicapé et il est attiré par moi, mais reste qu'ils sont... Je pense que ça s'explique aussi par le phénomène Instagram, si je peux dire ça comme ça.
Parlons-en, justement.
Oui, l'image est très, très importante. C'est surtout dans ma tranche d'âge, à 18 ans, entre 18 puis 30 ans, je pense que les gens vont vraiment avantager le physique avant la personnalité, avant les ambitions d'une personne. Au contraire, je pense que ça devrait être tellement pas comme ça, parce que une personne peut être si belle, OK, physiquement, sera peut-être pas un top model, mais va être tellement attirant parce qu'il a une belle personnalité, parce qu'il a des ambitions dans la vie, il a des rêves. Mais à cause d'Instagram, en fait, les gens sont beaucoup plus portés à favoriser le physique. Puis ça, je pense que ça peut aussi expliquer le phénomène que les gens sont peut-être moins ouverts, surtout les garçons, moins ouverts à fréquenter des personnes avec un handicap physique ou mental. Là,
peu importe.
Je parle physique parce que dans mon cas, ça t'applique, mais
tout à fait.
Vraiment tout handicap, en fait.
Mais tu sais quoi, Raphaël, en tout cas, de ma petite expérience, si je peux oser te dire ça, je comprends complètement ce que tu veux dire. Puis quand tu parles même de la maturité des garçons à cet âge-là versus, comme tu dis, ben, l'acceptation d'un corps différent, comme dans ton cas, j'ai envie de te dire, ça va certainement se passer pour toi, mais peut-être que ça va être juste un peu plus long quand justement il y aura des hommes ou des garçons qui vont être plus matures ou plus vieux. Mais j'aime ta réflexion, c'est une belle réflexion. Et j'ai envie de dire que j'ai vu ta page Facebook, Instagram, et justement, tu parles de ce phénomène, mais toi, tu l'as utilisé à l'inverse, dans le sens que tu as même osé publier une photo de toi en maillot de bain, chose qui, en fait, tu n'aurais jamais cru faire ça il y a quelques temps ou quelques années.
Oui, ça vient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon background en tant qu'enfant, dans mon enfance, comment je m'acceptais pas déjà en maillot de bain parce que j'étais un peu plus ronde, mais là, en plus, je manque une jambe.
Ouais.
C'est quelque chose que j'aurais pensé, que j'aurais pas pensé faire là, une couple d'années, mais je l'ai fait pour moi avant tout, là. De me dire, regarde, si tu veux t'accepter réellement, prouve-toi là toi-même en t'exposant sur les réseaux sociaux en maillot de bain. Puis, j'ai été totalement à l'aise de faire ça. Je pense qu'il n'y a pas de l'image que les réseaux sociaux ont créée d'un corps parfait est tellement abstrait parce que ça n'existe pas.
Voilà.
Alors, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est retouché, c'est modifié, on joue avec les angles, on joue avec la luminosité, c'est rien qui est vrai. Dans la vraie vie, oui, tout le monde va avoir... tu vois, tout le temps une petite différence. Un grain de beauté, une tache, des vergetures, un petit surplus de poids. Tout le monde a quelque chose. Fait que c'était un peu de montrer du vrai, de dire comme c'est vrai, ça c'est du vrai, c'est du peu vrai, ça n'a pas été retouché, c'est mon corps, c'est ce que je suis. Puis c'est de vraiment montrer aux gens que si tu t'acceptes, ça revenir en fait... au fait que si tu t'acceptes, si tu montres que tu acceptes ton corps, les gens vont être portés à t'accepter comme tu es.
Parce
que c'est vraiment ça que je voulais montrer. Puis que je pense que quand tu t'aimes, que tu apprends à t'aimer toi-même avant, je pense que tu peux pas demander aux autres de t'aimer pour qui tu es 100% quand tu peux pas le faire toi-même. C'est ça le... Puis là, je dis ça, mais j'ai encore mes complexes. On a tous nos complexes. C'est 100% normal. C'est comme ça qu'on est. On travaille...
C'est un chemin. Voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est un cheminement de vie, ça apprendre à s'accepter à 100%. Puis je pense que est-ce qu'on va le faire à 100% à un moment dans notre vie? Non, je pense pas. Je pense qu'on a un travail qui ne va jamais se finir, ne va jamais aboutir. Mais d'entamer ce processus-là, puis essayer du mieux qu'on peut à s'accepter, c'est quelque chose qu'on se doit à nous-mêmes de faire.
Raphaël, je veux dire, c'est incroyable tout ce que tu dis. J'ai envie que tout le monde t'entende. Je veux que tout le monde t'entende. Et au final, ça nous fait voir que, une des plus belles leçons que ton handicap t'aura apprise, c'est bien que, pour synthétiser en tout ce que tu viens de dire, que la différence, c'est beau, point à la ligne. Merci infiniment. Et en fait, tu vas faire une magnifique, une très, très bonne enseignante, même mon metteur en onde qui me souffle ça à l'oreille. Donc, c'est pour te dire, comme tu dis, à quel point tu attires ce que tu es. Merci infiniment, Raphaël Tousignant, et je te souhaite surtout bonne chance dans tout ton parcours sportif et ton parcours professionnel et personnel aussi.
Mais merci beaucoup.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Comme toujours, je vous rappelle toujours le site www.canalm.visezvoix.com pour aller réécouter les émissions. Merci infiniment à ma magnifique et merveilleuse équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien à la liberté, à l'habillage sonore. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis, prenez soin de vous, profitez du beau temps et à bientôt.